Les colloques du Collège de France.
Puisque nous avons commencé avec le dialogue Bonnefoy-Starobinski, de donner la parole à Martin Rueff, qui est poète, traducteur, critique littéraire, professeur à l'Université de Genève, où il a pris en effet l'héritage de Jean Starobinski. Il a publié ses essais dispersés dans un livre magnifique, La beauté du monde. Et ce grand livre est précédé de notre livre, un livre dans le livre, c'est-à-dire la biographie de Jean Starobinski, où Yves Bonnefoy est bien présent. Parmi ces volumes de poésie, j'aime évoquer La jonction, 2019, et il a aussi publié, ce qui est rare, un volume de poèmes fascinant en langue italienne directement. Il a traduit en français plusieurs poètes et écrivains italiens, parmi lesquels Luciano Cecchinelli, Eugenio De Signoribus et aussi Italo Calvino. Il dirige la revue Poésie et en piémontais, je suis ravi d'évoquer le fait qu'il a dirigé les œuvres de Cesare Pavese. Merci Martin, et je te donne tout de suite la parole.
Merci à vous toutes et vous tous d'être présents. Monsieur le Président, je pense que l'idée c'est qu'on parle entre 20 et 25 minutes, c'est ça?
Oui,
pour permettre quand même à tout le monde de parler justement. Donc Yves Bonnefoy, le temps de l'œuvre, pour saluer donc le nouveau siècle d'Yves Bonnefoy, et deux de ses plus beaux cadeaux d'anniversaire, la parution donc de la Pléiade, œuvre poétique hein, au pluriel, l'édition établie par Odile Bombard, Patrick Labarthe, Daniel Lançon, Patrick Ney et Jérôme Tello, et le volume formidable, Bonnefoy et la philosophie, un ensemble d'études publiées par le même Jérôme Tello en 2023. Ce sont deux beaux cadeaux d'anniversaire auxquels s'ajoute cette journée d'études. Donc le temps de l'œuvre. Une suite de livres, fussent-ils beaux, fussent-ils célèbres, fussent-ils attachants, ne fait pas une œuvre. Une suite de livres couvrit-elle 70 ans de production à la fois acharnée et patiente, car 70 ans séparent la publication de Le Cœur Espace en 1946 et L'Écharpe Rouge en 2016, n'est pas importante parce qu'elle remuerait des choses ou qu'elle répondrait à l'époque, mais parce que le langage autour d'elle se décale, aménage un vide qui devient son lieu de séjour, crée un appel, fraye une attente. Ce vide, ce frayage, ouvert dans le langage et par le langage, c'est l'espace et le frayage de l'œuvre. Fermes et douces, comme les celles de Bonnefoy, sont les œuvres qui nous tiennent dans leur espace et nous vouent à les interpréter à partir des questions qu'elles nous posent. Ces questions, me direz-vous, ce sont nous qui les posons, mais nous ne serions pas en mesure de les poser si elle ne les nous posait pas à son tour. C'est l'œuvre qui nous donne à penser. Dire que l'œuvre échappe et dire qu'elle nous charge de ces questions, c'est une seule et même chose. Qu'est-ce que l'œuvre, alors, pour échapper aux prises de nous qui tentons de l'interpréter, pour contraindre à la répétition du discours critique, et il ne fut pas avare à propos d'Yves Bonnefoy, en se retirant à chaque fois de la représentation où l'on voudrait l'enclore, telle est la question que je voudrais poser ce matin. La publication des œuvres poétiques d'Yves Bonnefoy permettra de mesurer ce qu'est une œuvre et ce que nous pourrions être ou devrions être face à elle. Cette question, vous le sentez, elle naît de l'insatisfaction où nous laissent systématiquement les interprétations. Mais elle n'acquiert sa vérité que lorsque, de question sur le sens, elle devient question sur l'être de l'œuvre. Lorsque nous nous obligeons à penser à la fois la présence de l'œuvre, l'évidence de son attrait et son absence, sa retraite où l'on prétend l'afficher. Quand nous parlons de l'espace de l'œuvre, ce terme est commode, mais il est traître aussi, car son espace, il faut entendre qu'elle l'ouvre, mais aussi qu'il n'a pas de borne que nous puissions rapporter à d'autres espaces, de formes que nous puissions circonscrire au sein d'autres formes. De ce qui est ouvert par une œuvre, nous ne pouvons pas connaître les points de vue, les contours. Si nous voulions les connaître, nous ne serions plus ouverts à ce que l'œuvre nous offre, nous ne nous tiendrions plus dans son ouverture, Nous pourrions bien examiner et multiplier les points de vue, elle serait toujours écrasée dans le plan du sensible ou de la connaissance. Il est donc vain de rechercher l'espace de l'œuvre hors de l'œuvre. Nous ne pouvons que le trouver, nous ne pouvons que le perdre. Lorsque nous pensons et que nous éprouvons, ce qui par un écrivain a été pensé ou éprouvé pour la première fois, comme ce qui doit être pour la première fois pensé ou éprouvé, l'avènement d'une parole, alors nous sommes dans l'espace de l'œuvre, dans son événement. Peut-être la première lecture, et essayez de vous souvenir quelle fut votre première lecture de bonne foi, ça serait un bon, je pense, une bonne manière de travailler. Qu'est-ce que ça a été, votre première lecture de bonne foi, même les conditions concrètes dans lesquelles vous avez découvert son livre, ses livres. Peut-être la première lecture qui se fait sous le signe de la découverte, de l'étonnement et de l'attente, dans la quête d'un sens que rien n'arrête jusqu'au terme, est-elle aussi la plus fidèle et préserve-t-elle mieux la présence de l'œuvre que les lectures critiques que nous, poètes et critiques, nous faisons par la suite? Qui d'entre nous, et c'est mon cas, ne regrette sa première lecture de Douve, de l'arrière-pays, des planches courbes, de l'écharpe rouge? Et quand les gens me disent « j'ai pas encore lu bonne foi », je dis « vous avez de la chance, parce que c'est devant vous ». Qui ne regrette ce moment où tout s'est ouvert de l'œuvre comme une éclosion bouleversante, inouïe? Et peut-être, je parle devant des grands connaisseurs, notre dernière lecture tente-t-elle de renouer avec la première quand elle prétend rendre cette présence manifeste? Mais le terme de présence, si chéri par notre poète, n'est-il pas traître à son tour? Car le lieu de la présence, et Bonnefoy était très sensible à ce motif chez Blanchot, le lieu du même s'avère celui aussi d'un constant retrait, d'une constante différenciation. Avec Bonnefoy, comme avec toute grande œuvre de poésie et de pensée, l'énigme que nous affrontons, que vous affrontez, c'est que l'ouvert n'est pas l'espace anonyme d'une vérité qui se suffirait de briller devant nous. L'ouvert tient à l'œuvre elle-même. L'ouverture tient à un présent, et cette ouverture, nous ne pouvons la trouver ou la refaire que depuis un autre présent et dans une position neuve. Ce n'est que lorsque nous nous tournons vers une œuvre que nous demandons qu'est-ce qu'elle a ouvert. L'ouverture de l'œuvre est commandée par la première entrée qui est la sienne, mais elle en suppose d'autres, la nôtre, la vôtre. Ce n'est que parce que ces entrées se multiplient au cours du temps qu'elle existe comme telle. Il est légitime de soutenir que le poète Bonnefoy parle entre 1946 et 2016 du temps, de son temps, de telle manière que des années plus tard, aujourd'hui, rivé à son condition, autrui, nous puissions l'entendre et parler à son écoute. Légitime de penser qu'il habite son temps, bien sûr, comme il pourrait habiter des temps futurs dont il ne pouvait rien savoir et qu'il ménageait ainsi à l'avance une place pour les autres. Ce sont ceux qui habiteront un monde que l'auteur ne pouvait pas concevoir, pour qui son expérience deviendra de plus en plus ténébreuse et qui devront faire l'expérience et l'épreuve de la différence des lieux et de chemins. Rassurons-nous, parce que je sais que parmi vous, il y a des inquiets et des inquiètes que l'œuvre d'Yves Bonnefoy s'éloigne. Plus s'accroîtra cette distance, plus s'accroîtra la chance de la réouverture de l'œuvre. Mais inquiétons-nous aussi, car c'est une simple chance. Le temps qui passe pourrait aussi apporter la menace de son effacement ou de son rétrécissement. Il est possible, au reste, que nous nous trompions toujours sur le sort des œuvres, que nous la croyons morte alors que l'avenir la fera parler, ou bien que nous lui prêtions des vertus qu'elle n'a plus sous nos yeux, qu'elle nous donne seulement le moyen d'habiter nos fantasmes. C'est bien ce qui ressort de la comparaison de deux imaginaires du temps à l'œuvre chez Baudelaire et chez Bonnefoy. C'est ce qui donne le titre à notre rencontre. Je rappelle les vers merveilleux de Baudelaire et leur réécriture par Yves Bonnefoy. Je te donne ces vers afin que si mon nom aborde heureusement aux époques lointaines et fait rêver un soir les cervelles humaines, vaisseau favorisé par un grand aquilon, ta mémoire, pareille aux fables incertaines, fatigue le lecteur ainsi qu'un tympanon, et par un fraternel et mystique chaînon reste comme pendu à mes rimes hautaines. Être maudit, à qui, de l'abîme profond jusqu'au plus haut du ciel, rien, hors moi, ne répond. Ô toi, qui, comme une ombre à la trace éphémère, foule d'un pied léger et d'un regard serein, les stupides mortels qui t'ont jugé amer, statue aux yeux de G, grand ange au front d'airain. Je ne vais pas commenter ce poème que vous connaissez tous, hein, mais qui table sur une continuité créée par le poème, hein, qui ouvrirait un espace, hein, dans lequel le nom voyagerait et qui assurerait une présence de l'œuvre. Écoutez ce que ça devient dans « Raturé outre », un des derniers recueils d'Yves Bonnefoy. Le titre du poème, c'est « Afin que si mon nom », hein, c'est donc le titre de notre rencontre, « Je te donne ces vers, non parce que ton nom pourra jamais refleurir dans ce sol pauvre, mais parce que, tenté de se souvenir, ce sont des fleurs coupées, ce qui a du sens. D'aucuns disent, perdus dans leurs rêves, une fleur. Mais ce n'est pas savoir que les mots tranchent, s'ils croient le désigner dans ce qu'ils nomment, transmutant toute fleur en idée de fleur. Cisaillée, la vraie fleur se fait métaphore, cette sève qui coule, c'est le temps, qui achève de se déprendre de son rêve. Qui veut avoir parfois la visite se doit d'aimer dans un bouquet qu'il n'est qu'une heure. La beauté n'est offrande qu'à ce prix. Dérèglement de compte, ce sonnet est un grand poème sur le temps. Il reprend le motif baudelairien d'une pérennisation des corps par le nom en refusant la solution mallarméenne. Au nom, à la nomination de Baudelaire, il répond non. Non, le nom ne refleurira pas et il ne s'achèvera ni dans le destin, ni dans le souvenir. Je te donne ces vers, non parce que ton nom pourra jamais fleurir. Une formule terrible. Toute la tradition horacienne, ronsardienne et baudelairienne est congédiée. Le pacte, si vous voulez, de la nomination comme pérennisation des êtres, tout cela, c'est fini. Un rappel de la charogne traverse alors ce poème. Vous vous souvenez, hein, les formes s'effacer n'étaient qu'un rêve, une ébauche lente à venir dans la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Ici, le souvenir n'achève pas la forme, le poète tente de se souvenir. Il ne se souvient pas, il tente de se souvenir. La métaphore se déplace, le nom ne pérennisera pas le temps, il n'est pas extrait, arraché au temps, il est fleur coupée. Il s'agit de comparer le souvenir, non pas à des fleurs coupées, ce qui serait une métaphore assez belle, hein, mais assez attendue, hein. Il s'agit plutôt de comparer la tentative du souvenir aux fleurs coupées. Hein. Tenter de se souvenir, ce sont des fleurs coupées. Resterait alors, et cette tentative occupe le deuxième quatrain, resterait la solution mallarméenne, ou si vous voulez, hein, hegelienne. Faire de la fleur arrachée à sa référence une idée de fleur. Et dans le poème, vous ne pouviez pas l'entendre, hein, le mot fleur est entre guillemets. D'aucuns disent, perdus dans leur rêve, une fleur. Mais ce n'est pas savoir que les mots tranchent, ils croient le désigner dans ce qu'ils nomment, transmutant toute fleur en idée de fleur, ce qui est une citation, hein, de Mallarmé. Les guillemets comptent ici. La transmutation géniale de Mallarmé, vous vous en souvenez, Bonnefoy l'avait refusée dans son texte sur Mallarmé. Se soustrayant au court-circuit de la modernité Mallarmé-Baudelaire, opéré dans sa génération, par exemple, par Michel Deguy. Parce que Deguy allait à Baudelaire par Mallarmé, alors que Bonnefoy, lui, va à Mallarmé par Baudelaire. Mais ici ne valent ni le « Je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis bon passé blotti dans tes genoux », poème que Bonnefoy, vous vous souvenez, avait commenté ici même, hein, dans un cours qui s'appelait, hein, le poème « La mémoire et l'oubli », ni le saut mallarméen dans l'abolition de la présence. Ni présence dans la présence, ni célébration idéale de la fleur coupée dans l'absence. Les tercés ébauchent une solution et Bonnefoy recolle à la fleur coupée. Dans la poésie, dans ce poème, la fleur coupée devient, s'identifie au temps qui coule, qui s'écoule. Pour que la fleur coupée devienne métaphore du temps qui coule, Bonnefoy recourt, et c'est très fréquent dans Raturé et outre, à la voix pronominale, formule tout à fait extraordinaire, hein, le temps qui achève de se déprendre. Le poème, hein, c'est pas du temps conquis avec le nom, c'est un temps qui achève de se déprendre. c'est la fuite du temps. Le temps, hein, et cette version est, si vous voulez, bergsonienne ou husserlienne, hein, le temps, c'est la déprise de soi-même. Or, dit Bonnefoy, la beauté d'un poème, c'est la saisie du temps comme déprise. Voilà la clé de la métaphore. Le don de beauté, l'offrande, dit-il, est à ce prix. Le doute, donc, de la pérennisation de l'œuvre est inéluctable. Celui qui prétend redonner une vie à une œuvre risque toujours, si grande soit la renommée de celle-ci, de ne produire qu'un fantôme et de s'abîmer dans les simulacres. Ce qui est admirable chez Bonnefoy, c'est qu'il savait toujours qu'il était enraciné dans un certain milieu, dans une certaine époque, dans un siècle, hein, dont il disait qu'il était le siècle où la parole a été victime, hein, un texte tout à fait... c'était une conférence qui a ensuite donné lieu au... qui devient le titre, si vous voulez, d'un volume. Hein. Mais il savait aussi le pouvoir qu'a le poème de se déraciner pour penser le présent dans son essence. Alors, me direz-vous, l'œuvre de Bonnefoy, comme toute grande œuvre de poésie, serait-elle cette identité à soi soustraite au temps ? Pourrait-on encore la lire si elle était à ce point reclose ? C'est une évidence, me semble-t-il, que l'œuvre, quand elle est œuvre, maintient sa présence à distance de l'époque et du lieu où écrivait son auteur. Mais pour penser la présence de l'œuvre, il nous faut, et c'est ce qui est toujours difficile avec les étudiants, hein, écarter, enfin les étudiants sont parfois plus futés que les collègues, mais enfin bon, qu'il nous faut écarter les conventions qui commandent la conception commune du temps. L'œuvre n'est pas présente parce que chose passée, elle serait présente dans sa représentation et qu'elle aurait une vertu particulière, hein, qui lui permettrait de faire paraître ce à quoi elle était autrefois présente. Elle est présente en tant qu'elle ne fait que passer et qu'elle passe dans notre présent. Nous ne sommes pas condamnés face à Bonnefoy, hein, à l'alternative de viser l'œuvre comme un discours qui a été tenu en un lieu, en un temps, par exemple ici, au collège, dans les années 2000, et de déterminer en conséquence qui il était et ce qu'était le monde qu'il nommait, et de la réalité dans laquelle il s'inscrivait, ou bien, solution que Bonnefoy abhorrait, de viser en elle des idées qui augmenteraient notre sensibilité. L'œuvre, en fait, est ce retrait. Elle est moins l'espace d'Orphée que l'espace de Psyché. Bonnefoy, à la fin de son œuvre, remplace, si vous me permettez, hein, je suis obligé de faire des raccourcis, Orphée par Psyché. Dès lors que son œuvre existe, bien sûr qu'elle est chute dans le passé, la parole qui s'y profère est pour nous tous et d'abord pour l'auteur lui-même ce qui a eu lieu, d'où sans doute aussi chez Bonnefoy, hein, une urgence à produire. Nous ne pourrons jamais l'entendre que de ce lieu, et sa chute même semble plus pesante que celle de nos paroles, parce que les œuvres creusent en s'y nommant, hein, le lieu où elle existe. Mais l'œuvre de Bonnefoy, lancée, sera toujours au-delà de ce que nous en saisissons. Sa parole n'est pas en arrière, mais elle est devant nous. Pourquoi sinon lirions-nous son œuvre ? Pourquoi sinon entreprendrions-nous de discuter avec elle ? Si Bonnefoy incarne aujourd'hui, mieux que beaucoup, l'œuvre de la poésie, c'est parce que le présent de son œuvre est pensé à partir de l'obsession de la présence. Ce thème a été évidemment très travaillé par la critique avant moi, hein. Obsession, motif, thème, mais aussi programme de travail. La question qu'il faut poser à une telle œuvre, les questions qu'il faut poser à une telle œuvre, parce que cette œuvre est celle-ci, et non pas une autre, parce que c'est elle qui nous la pose, c'est quel est le rapport de son présent au temps. Ce chantier, car c'en est un, implique trois plans de travail, je les indique, hein, et puis je conclue, parce qu'il faut vraiment que je finisse vite. Le rapport du présent de l'œuvre au temps de l'histoire, le rapport du présent de l'œuvre à la durée vécue, le rapport du présent de l'œuvre au présent de la langue. Oublierions-nous cette dernière dimension, que nous tomberions dans le piège de l'entreprise aussi géniale que fausse de Georges Poulet, qui, dans ses études sur le temps humain, pensait qu'il suffisait de lire des œuvres en y traversant le langage pour y retrouver des expériences du temps. Pour chacune de ces enquêtes, hein, j'aimerais bien m'appuyer, si une version écrite, c'est ce que je montrerai, hein, je voudrais m'appuyer sur un texte précis. Pour le rapport du temps de l'œuvre et de l'histoire, hein, Je voudrais m'appuyer sur le texte que Yves Bonnefoy avait consacré à Desforêts et qui s'appelle, hein, je pense que beaucoup ont été frappés par ce texte, hein, « Un écrivain de notre temps ». Qu'est-ce que ça voulait dire pour Bonnefoy être de son temps? Et c'est un texte tout à fait extraordinaire, hein, que vous trouvez dans La vérité de parole. C'est un texte dans lequel, hein, Yves Bonnefoy, une écriture, pardon, de notre temps, pas un écrivain de notre temps, sur Louis de René Desforêts. Et c'est un texte dans lequel Bonnefoy discute et même ferraille dur avec Maurice Blanchot sur le rapport entre temps, justement, et histoire. Pour la question du rapport du temps de l'œuvre à la durée, hein, je m'appuierai sur Raturé Outre, le texte de 2011, parce qu'il me semble que c'est un texte qui, notamment dans sa langue, hein, implique un rapport à la durée assez neuf dans l'œuvre de Bonnefoy. Et puis, pour le rapport entre le temps de l'œuvre et le temps de la langue, alors j'ai choisi des textes de la fin, hein, Ensemble encore. Mais, je saute tout ça, évidemment, et je vais vers ma conclusion. Rencontrer Bonnefoy, c'était rencontrer un énoncé de Novalis que beaucoup d'entre nous, ici, s'étaient approprié, ou à tout le moins, avaient reconnu comme une devise qu'il voulait approcher. Novalis avait écrit en 1797 « Die Poésie ist das echt absolut réel ». La poésie est véritablement le réel absolu. Novalis concluait « C'est le noyau de ma philosophie. Plus c'est poétique, plus c'est vrai. » Bonnefoy incarnait cet absolu. Il incarnait le réel absolu de la poésie dans son œuvre. Mais qu'on ne se méprenne pas, chez lui, pas d'arrière-monde de l'absolu, pas de surréel non plus, pas de maison de l'être, pas de magie, pas de préchi-prêcha non plus. Le réel absolu, c'est le réel rendu absolument à lui-même. Nous avons toutes et tous fait cette expérience, que Bonnefoy ne cesse de rappeler, face à un crépuscule, à un arbre, à un oiseau, à un visage, à un enfant qui joue, à un objet, à une œuvre, nous désespérons de le rendre à lui-même. Et c'est souvent à se taper la tête contre les murs avant de la taper contre les mots. Eh bien, écrire pour Bonnefoy, c'était élargir ses murs ou aller se cogner. Bonnefoy est entré dans sa gloire, il est acclamé, il est salué, mais la gloire ne dit peut-être pas toute la vérité d'une œuvre, et elle ne dissipera pas tout équivoque malgré les efforts magnifiques des éditeurs et des commentateurs. Il arrive parfois que le pouvoir qu'avaient eu certaines œuvres de trancher un discours collectif, de se démarquer, et se déportant toujours en avant, de rendre étrange l'écriture et l'entreprise de création, ne soit enfin publiquement reconnu que pour être assagi, écorné, aplati. Comme si ce pouvoir avait pour principal effet de mobiliser contre lui d'interminables ruses au service de la restauration d'équilibre que l'œuvre menaçait. L'étrange alors, c'est que plus l'œuvre semble assurée de son public, plus son attrait paraît à l'abri des variations des goûts et des circonstances, plus difficile est notre tâche de la lire librement. Et c'est ça que fait la Pléiade, de nous permettre de la lire librement. C'est-à-dire de faire droit à ce qu'elle est de singulier et d'inassimilable par la postérité et qui l'a fait encore futur pour celles et ceux qui l'imagineraient passer. Les questions des poèmes et de la grande poétique de Bonnefoy nous sont adressées aujourd'hui comme des défis à la pointe de notre présent. Et si nous voulons défendre après lui la poésie comme réel absolu, il ne faut éviter aucune des questions que ce présent nous tend. Quelle est l'unité du poème? Le poème pourra-t-il sortir du langage, du logos, de la phrase, de l'image, de la comparaison? Comment aujourd'hui comprendre le lien qui semble si étroit entre poésie et croyance? Et davantage encore, obsession de Bonnefoy, y a-t-il une croyance poétique? Comment articuler aujourd'hui le poème et la préoccupation pour la vie nue, pour la vie des corps, et de manière encore plus large, quelles sont les conditions de possibilité des éco-poétiques? Quelles sont les chances des poèmes dans la dévastation du vaste? Les chances du poème en langue à l'ère des techniques de l'information? Comment ne pas être sur la défensive? Comment ouvrir le poème à la tâche d'hospitalité? Comment penser le réel du poème et des savoirs aujourd'hui? Quelle place peut jouer le poème dans des revendications d'identité? lui qui est plutôt l'opérateur des différenciations, comment maintenir la tresse de l'érotisme et du lyrisme dans le respect et les inquiétudes des différenciations sexuelles. Si cette œuvre nous interpelle, une fois bonne foi disparue, ce n'est pas que nous puissions encore entendre l'une des voix qui font la poésie contemporaine, la poésie d'aujourd'hui. C'est plutôt parce que bonne foi s'en est dissociée et l'empêche de régner. Ce n'est pas parce que chacun peut désormais reconnaître dans les poèmes de bonne foi et dans ses pensées ses propres sentiments, ses propres intuitions, ses propres convictions, mais bien plutôt parce que cette œuvre va continuer, et nous gageons qu'elle continuera, de mettre chacune et chacun en demeure de penser et de vivre, au-delà d'une pensée de la littérature et de la vie, simplement assujettie au renversement de la tradition, parce qu'elle incite à se déprendre du passé et du présent. Si nous nous permettons ces réflexions devant l'œuvre d'Yves Bonnefoy, c'est que, jugeant avec d'autres qu'elle porte au plus loin l'interrogation poétique en notre temps, nous ne voudrions pas qu'elle soit menacée par la séduction qu'elle ne manque d'exercer. L'homme, la personne, nous le voyons ici, a exercé un attrait exceptionnel sur ses contemporains. Cet attrait, nous le subissions tous. Mais aujourd'hui, nous pensons simplement, sans nous accorder pour cela le moindre privilège, qu'il faudra peut-être défendre sa parole contre un certain écho qui ne cesse de lui être renvoyé. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.